Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 19 février 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Mis à part le fait que ça fait 24 ans que Mathieu est sur la Terre
aujourd'hui.
Oui, c'est la fête à Mathieu. Quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention dans la dernière semaine?
Bien, deux nouvelles contradictoires. D'une part, on a appris cette semaine que les investisseurs américains sont à leur niveau le plus pessimiste depuis probablement 2008, là, depuis fort longtemps. En même temps, hier, le S&P 500 a atteint un nouveau sommet historique. Donc, c'est un petit peu contradictoire. Généralement, quand les gens sont très pessimistes, ben ils se mettent sur les lignes de côté. Présumément, ils ont déjà réduit le risque de leur portefeuille. Puis, généralement, c'est un indice un peu contrariant. Donc, quand tout le monde est pessimiste, généralement, c'est favorable pour le marché parce qu'ils peuvent à peu près juste changer d'idée puis finalement revenir dans le marché. Ça fait des nouveaux acheteurs puis ça fait augmenter la bourse. Donc, le S&P 500, nouveau sommet historique en hausse de 1% cette semaine, en hausse de 1,5% depuis le début du mois et de 4,2% depuis le début de l'année. Du côté du Canada, c'est un peu plus tranquille, mais quand même à la hausse. 0,1% cette semaine, 0,4% pour le mois, 3,7% pour l'année. Le Nasdaq, 2% cette semaine, 2,1% pour le mois, 3,8% pour l'année. Donc, les bourses en général se comportent bien malgré, et puis on le sent de nos clients aussi, là, beaucoup d'inconfort face aux nouvelles géopolitiques et aux politiques de notre ami au sud. Mais ceci dit, les entreprises gèrent leur business. Les présidents des compagnies font les changements qui doivent être faits en fonction des risques. On voit certaines entreprises bien performer. On a vu Power Corp hier atteindre un nouveau sommet en hausse de 32% depuis un an. 32% sur un an, c'est mieux que le S&P 500 qui est en hausse de 30% sur un an. C'est comme quoi une bonne vieille business canadienne est capable de très bien faire. Brookfield Corp, que plusieurs clients détiennent, donc une entreprise moins bien connue au niveau des particuliers, mais c'est un gestionnaire d'actifs mondial, 60% de rendement depuis un an. Donc, tu sais, même au Canada, on peut quand même trouver des opportunités puis des bonnes entreprises bien gérées. Donc, je vous parle du rendement du S&P 500 à un sommet historique. Pourtant, le Mag 7, donc les 7 magnifiques, qui sont Microsoft en baisse de 13% de son sommet, Apple est en baisse de 7%, Amazon en baisse de 7%, Tesla en baisse de 28%, Nvidia moins 9%, Meta moins 4%, Google moins 11%. Donc, ce ne sont plus les 7 magnifiques qui traînent le marché à la hausse. C'est toutes les autres entreprises qui se joignent à la parade. Et ça, c'est très positif. La profondeur du marché s'améliore. Autre surprise, notre petit dollar canadien qui devait souffrir des politiques de Trump, sommet depuis plusieurs mois, on est à 70,4. On n'avait pas vu un chiffre en haut de 70 depuis quand même un bon moment. Donc tout ça que je trouve, c'est des nouvelles qui sont quand même assez positives dans un contexte qui est difficile quand on regarde les nouvelles le soir. On a de la misère à trouver du positif. Mais le marché nous en donne.
Puis conseil, ne pas regarder les nouvelles le soir.
15 minutes pour savoir ce qui se passe, puis on ferme la télé.
Ou le matin. Et autre chose, toutes les nouvelles que tu as données aujourd'hui, c'est vraiment l'indication qu'il faut rester diversifié, pas avoir d'excès de conviction. Donc, toutes les choses qu'on répète à chaque semaine.
Les principes de base de la bonne gestion de portefeuille.
Exactement. Bien, merci beaucoup, Martin. On approche la fin de la saison des rayeurs. Fiouf! Ouais. Parce que c'est toujours notre temps de l'année le plus où on devient le plus fatigué.
Ouais.
Donc, c'est le 3 mars, date à ne pas oublier. C'est la dernière journée pour cotiser à son rayeur pour l'année 2024. C'est aussi le bon moment de l'année et souvent à ce moment de l'année qu'on parle de planification financière. Donc, qui inclut la planification de retraite, la planification de décaissement et la planification successorale. Je parlais avec quelqu'un récemment, puis j'ai dit, on pourrait faire un plan. La personne m'a dit, c'est assez simple de savoir qu'est-ce que j'ai besoin à la retraite. Donc, je n'ai pas besoin de planification. Puis j'ai souvent cette réaction-là. On est capable de faire un calcul rapide. Et donc, à quoi ça sert? Parce que c'est sûr que ça implique un certain niveau de travail pour le client, de ramasser tous les documents nécessaires. Je me disais, OK, c'est correct, mais ça a inspiré notre épisode d'aujourd'hui parce que j'ai dit, OK, discutons des 7 domaines de la planification. Ouais. C'est pas la première fois qu'on le fait, mais c'est toujours un bon rappel. Et Martin, tu es planificateur depuis 2001, donc bien placé pour parler de planification, puis c'est quand même une réelle passion de ton côté. Donc, premièrement, est-ce que tu peux prendre le temps de bien décrire en détail les 7 domaines de la planification? Et c'est pas juste la planification de retraite. Et en quoi cela consiste?
Oui, l'illustration de retraite qui est souvent utilisée comme planification financière, c'est un des 7 domaines. Ce n'est pas la planification financière. Le premier segment, ce sont les aspects légaux. Donc, les aspects légaux, ben c'est le rôle crucial que la protection des actifs puis de votre famille, c'est le testament, c'est les mandats de protection, c'est le régime matrimonial sur lequel vous êtes marié. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'il faut prendre en considération. C'est quoi l'implication d'être conjoint de fait versus être marié? Est-ce que je me suis marié en séparation de biens ou en société d'acquêt? Puis bon, on souhaite tous rencontrer l'âme sœur puis faire toute notre vie, mais la réalité, c'est que la moitié des couples au Québec se séparent et il y a des implications monétaires à ça et on peut vous aider, advenant que ça vous arrive, à essayer d'un peu prévoir qu'est-ce qui va arriver, puis peut-être minimiser l'impact sur le patrimoine.
Puis c'est souvent la partie de la planification qui est la partie le plus inconfortable.
Oui.
Hein? Puis les clients sont pas bien de discuter. Et souvent, les problématiques ou les difficultés dans les couples ressortent à ce niveau-là. Mais il faut en discuter. Puis une fois que la discussion a eu lieu, les gens se sentent bien apaisés, je pense.
Le deuxième segment, c'est donc la succession, la planification successorale. Donc, c'est pas juste de rédiger un testament, mais quel sera votre patrimoine au décès et quels seront les impôts à payer suite à votre décès ou au deuxième décès, là, si vous léguez les biens à votre conjoint. Est-ce que vous avez dans vos bénéficiaires des personnes qui sont plus à risque, qui ont des troubles, par exemple, de consommation, ou qui ont besoin de certaines protections supplémentaires? Donc, de bien structurer la succession, de bien le préparer. Est-ce que ça implique de créer des fiducies? Est-ce qu'on veut faire des dons de bienfaisance du vivant ou au décès? Et puis, advenant où on détecte qu'une succession n'est pas liquide, donc on a, par exemple, un paquet de biens immobiliers, mais pas beaucoup d'encaisse, pas beaucoup de cash, ben s'il y a beaucoup d'impôts à payer au décès, avec quoi je vais payer les impôts? Donc, je vais être obligé, la succession va être obligée de vendre rapidement un immeuble pour payer les impôts. Généralement, quand on vend un bien rapidement, on n'a pas nécessairement le meilleur prix pour ce bien-là. Donc, c'est d'avoir le visuel sur ça. On ne sait pas quand ça va arriver, notre décès, mais donc on peut, nous, l'illustrer, entre guillemets, vous faire mourir à intervalles réguliers, puis voir quel serait l'impact et est-ce que la succession, elle est suffisamment liquide là, pour couvrir les impôts au décès, puis c'est quoi les impôts?
Puis, il y a cet aspect-là aussi. Maintenant, tu vas t'attarder sur un des sujets, la protection. Les gens n'aiment pas parler de celui-là aussi.
Ouais.
Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Donc, l'assurance et gestion des risques, donc les besoins en protection. On a beau avoir le plus beau plan financier puis un portefeuille bien diversifié, mais advenant un décès prématuré, advenant une invalidité prolongée, advenant une maladie grave, ça peut vraiment venir défaire un patrimoine puis tout un beau travail de planification parce qu'on a négligé cet aspect-là. Donc, l'aspect assurance et gestion des risques, évidemment, on parle d'assurance vie, assurance invalidité, maladie grave, assurance des biens, assurance responsabilité civile pour un entrepreneur, par exemple. Donc, c'est important de vérifier ces risques-là puis est-ce qu'il y a un danger d'affecter notre patrimoine de façon importante.
Puis, parce que je passe à travers le processus actuellement avec le décès de ma mère, qu'est-ce que j'ai appris? C'est quand quelqu'un meurt, on a tout de suite besoin d'argent dans les prochains jours suite au décès. Et ça, c'est quelque chose que je savais théoriquement de par mes livres et de mes études, mais de le vivre et de dire, oh mon Dieu, les frais funéraires, c'est là, ça arrive maintenant, puis là, il faut aller piger dans ses poches. Mais l'assurance, c'est super intéressant. Je pense que je l'ai déjà
dit. Ça permet de rentrer de l'argent un petit peu plus rapidement.
Oui.
Le quatrième point, donc, c'est les finances. Donc là, on parle vraiment de budget. Donc, il y a plein de gens qui disent, OK, ben là, je sais pas, moi, c'est quoi, combien je dépense par mois. Donc, si on ne sait pas combien qu'on dépense par mois, combien ça prend d'argent pour assurer notre retraite, c'est difficile à déterminer. Donc, ça fait partie là, de la planification de retraite. On est capable soit de partir de votre budget, les dépenses que vous faites par mois, puis d'établir combien vous dépensez. On peut faire l'exercice inverse, de partir de vos revenus. On soustrait l'impôt, on soustrait l'épargne. Ben, ce qui reste, c'est ce que vous avez dépensé dans l'année. Et puis de lever le drapeau. Ce qu'on fait malheureusement à l'occasion, c'est de lever un drapeau pour dire au rythme où vous dépensez et au capital que vous avez, il vous reste X années de capital. Donc peut-être faire attention à votre budget.
Puis ça, on le sent vraiment comme notre devoir de fiduciaire. Ouais. Hein? Puis on a tendance à le dire. Aussi, faites-vous-en pas. Si vous n'avez pas de budget, je pense qu'on l'a déjà dit sur le balado. Moi, j'estime environ 60 % ou 70 % ouais. des gens n'ont pas de budget, mais il n'est jamais trop tard pour en faire un.
Exact. C'est une bonne pratique au moins d'avoir une idée globale de nos dépenses mensuelles. Puis on est capable de vous aider à illustrer ça également. Fiscalité, évidemment, ben tu sais, tout le monde préfère payer moins d'impôts que plus d'impôts, hein, on s'entend. Donc, ça fait partie là, de voir est-ce qu'on utilise tous les régimes comme les REER et les CELI. Est-ce qu'il y a du fractionnement qui peut être fait? Est-ce qu'on peut aller chercher, par exemple, un crédit social comme du supplément de revenu garanti en prenant plus de notre CELI au lieu de retirer du fer à la retraite, ainsi de suite. Ça fait partie là, des choses qu'on va regarder. Donc, quand on fait une planification financière, souvent, on dit au client, mais tiens, amenez-nous votre rapport d'impôt. Puis les clients sont là, mais pourquoi tu as besoin de voir mon rapport d'impôt? Bien, parce que je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas encore. Il faut que j'analyse le rapport d'impôt. Peut-être qu'il n'y a rien à voir là-dedans. Peut-être qu'il n'y a pas d'opportunité. Peut-être qu'il y en a une, mais il faut l'analyser pour voir. Est-ce que, c'est aussi simple que j'ai trouvé en regardant le rapport d'impôt d'un client, le comptable avait fait une erreur, puis lors d'une transaction immobilière, avait déclaré une perte de 300 000 qui n'était pas une perte.
C'est pas rare qu'on trouve des erreurs. Ça arrive et ça nous aide. Et le meilleur plan, ben, on a la meilleure information au début du processus et le résultat est plus intéressant.
Tout simplement, il a avisé le comptable. Il n'y avait pas d'impact monétaire, mais ça aurait pu avoir un impact dans le futur. Donc, d'analyser le rapport d'impôt, ça a permis de détecter une petite erreur. Ensuite, on parle de placement. Donc, évidemment, là, on rentre dans notre pain puis notre beurre. Hein, Sarah, c'est la passion, c'est ça que je préfère. C'est vraiment d'assurer la bonne gestion d'un portefeuille avec les bons produits, avec des frais appropriés, avec une bonne diversification. Donc, vraiment de constituer le placement, le portefeuille, puis d'assurer... Tu parles d'excès de conviction tout le temps, donc qu'il n'y ait pas d'excès de conviction. Quand on analyse les portefeuilles, bien souvent, ça nous arrive de voir des clients qui se sentent bien diversifiés, puis ils ont, tu sais, huit entreprises dans la même industrie. C'est comme, ben, t'as huit fois le même risque, là, t'es pas diversifié.
C'est ça. Puis je pense que le côté placement aussi, on assume des rendements dans le plan, et ces rendements qu'on assume, ben, on a les rendements réels du portefeuille, puis on peut les mettre les deux côte à côte, puis dire, bon, est-ce qu'on est dans le bon chemin? Fait que le placement puis la planification de retraite sont très, très liés et peuvent vous donner beaucoup de perspectives pour l'avenir, de dire, OK, oui, le marché a baissé, mais est-ce que je suis encore sur la bonne route pour atteindre mes objectifs?
Et le dernier, le septième segment, donc c'est effectivement la retraite. Donc, on y arrive finalement, on planifie la retraite. Mais ça implique quoi? Ben, ça implique de faire des choix avec peut-être votre fonds de pension à prestations déterminées. Tu sais, vous recevez votre relevé annuel qui vous dit qu'à 63 ans, vous aurez droit à tel chiffre. Mais en réalité, quand vous allez prendre votre retraite, là, vous allez recevoir un document avec à peu près 12 choix différents, avec une pension réversible, pas réversible, au conjoint, garantie 10 ans ou pas. Comment vous faites ces choix-là? Ben, on peut vous aider. Il y a la RRQ, est-ce que je la reporte, est-ce que je la prends plus tôt, plus tard, ainsi de suite. Donc, de bien planifier cette retraite-là, puis d'assurer là, qu'on a un portrait qui est global, et pas juste de dire, OK, oui, j'ai cotisé à Montréal, donc j'ai planifié ma retraite, ça va au-delà de ça, puis ça va de...
Puis on dit souvent, quand on parle avec les clients, que la retraite, ça dure très longtemps. Hein?
Ouais.
Donc, on a besoin de continuer à planifier durant la retraite.
Ouais.
Et on se fait poser souvent la question par les clients lorsque les comptes, la valeur des comptes fluctue. Hein, plus on décaisse, plus nos portefeuilles baissent. Là, on devient un peu insécure, surtout avec les frais pour les RPA, etc.
Ouais.
Donc, on est là et la planification continue même après la retraite.
Ouais.
Pour la personne qui me disait qu'elle n'avait pas vraiment besoin de planification, car elle pouvait à peu près le figurer elle-même, qu'est-ce que tu dirais?
Bien, c'est un peu à la blague, j'ai bonne chance, là, mais plus sérieusement, c'est sûr que on a un espèce de biais de récence. Hein, c'est comme, ben, je le sais combien je vais avoir besoin l'année prochaine. Ouais, mais sur un horizon de 30 ans, ben là, t'as l'impôt, t'as le décaissement, t'as le budget qui va venir à travers tout ça, t'as les placements, les rendements. Moi, je te parie que si tu t'enlignes pour lancer un dard sur une cible qui est à 5 pieds en avant de toi, il y a des grosses chances que tu vas être proche du milieu. Mais si je recule la cible puis je la mets à 500 mètres, il y a des chances que tu touches même pas la cible. Puis c'est un petit peu ça. Donc, en faisant la planification financière, nous, on devient un peu comme des tireurs d'élite. T'sais, on recule la cible très, très loin, puis on s'assure d'au moins être sur la cible, puis à mesure qu'on avance dans le temps, de toujours raffiner notre tir puis s'assurer d'être le plus proche possible du milieu. Donc, il y a beaucoup de ficelles qui bougent en planification financière. Donc, tu sais, ça prend d'une part un excellent logiciel de planification financière qui n'est pas disponible au grand public, là, c'est les professionnels qui l'ont. Puis ça prend quand même des connaissances assez variées dans toutes sortes de domaines. C'est chacun son métier, c'est le mien, de faire la planification financière.
C'est ça, puis le nôtre, hein, on fait tous les deux, puis Michel aussi, des planifications. Puis je pense aussi l'aspect conseil dans la planification, quand on a juste notre cerveau sur le dossier, on devient très focussé sur certains éléments qui nous intéressent, puis on perd la vue globale.
Ouais.
Donc, on est là pour ça. Et quels sont les dangers de ne pas s'attarder sur les 7 domaines de la planification? Donc, il y en a qui, carrément, ils pensent pas du tout puis ils disent « j'ai pas besoin de ça, je sais que j'en ai assez ».
Exact. Puis, tu sais, c'est pas juste de savoir que j'en ai assez. Là, on s'entend que les grands multimillionnaires, milliardaires de ce monde, là, ils en ont assez.
Ouais.
Ils ont quand même une armée de planificateurs avec eux, puis de fiscalistes pour s'assurer que tout est bien couvert. Donc, tu sais, si eux, ils en ont vraiment assez, vous en avez quand même aussi de besoin.
Ouais.
Les angles morts de chacun des aspects. Tu sais, dans les aspects légaux, là, si j'ai pas un testament qui soit bien rédigé ou j'en ai pas du tout, puis j'ai des enfants mineurs qui héritent, ben c'est un problème. La curatelle va devoir gérer ça. Donc, mettons, la mère survivante qui a les enfants, ben là, elle peut pas utiliser les actifs qui appartiennent à ses enfants pour ses besoins à elle puis sa retraite.
Puis un testament bien écrit, là, ça, pour le savoir, il faut le lire puis il faut comprendre chaque aspect.
Ouais.
Puis on a eu des dossiers avec des clients, en le relisant, c'était comme, ben non, c'est pas ça que je voulais. Donc, ça vaut la peine de le relire. Et chez nous, on a des notaires qui servent de conseillers. Ils ne sont pas là pour lire ou écrire les documents légaux, mais ils sont là pour vous conseiller. Donc, appelez-nous, communiquez avec nous, puis on va vous mettre en lien avec ces gens-là.
Du côté de la succession, j'ai un peu fait référence à un investisseur qui aurait un paquet d'actifs illiquides, là, donc par exemple de l'immobilier, décède, doit payer son impôt. Ben là, s'il n'y a pas de cash pour payer l'impôt, on va devoir liquider des actifs et le faire rapidement. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on peut vous aider, soit en prenant une police d'assurance vie pour couvrir les impôts au décès, soit en vendant d'un actif là, avant le décès pour s'assurer d'avoir une liquidité. Tu sais, tout le monde se sent, du côté de la protection, là, on se sent tous invincibles. Là, donc, la maladie puis l'invalidité, c'est pour les autres. Par contre, c'est pas la réalité. Donc, oui, une invalidité prolongée suite à un accident important pourrait vraiment avoir un impact financier assez catastrophique sur une retraite. Donc, avoir une bonne protection, du moins une bonne base de protection, c'est important. Du côté des finances, on le vit une fois de temps en temps avec certains clients où on calcule, ben là, vous vivez peut-être un peu au-dessus de vos moyens. Faites attention. Donc, ça fait partie, là, de, si on analyse l'ensemble des revenus puis les dépenses, puis on dit, là, ce rythme-là avec l'inflation, dans X années, présumément avant votre décès, vous allez manquer d'argent. Ben, tout aussi bien d'essayer d'attaquer le problème puis de réduire un peu notre niveau de vie maintenant que de tomber à zéro et d'être encore vivant. La fiscalité, ben, il y a toujours une obsession sur les frais financiers. Là, les clients n'aiment pas payer des frais sur le portefeuille. Mais avoir un portefeuille structuré un peu tout croche qui fait qu'on paye plus d'impôts sur des revenus de placement dans les mauvais comptes, ben, tu sais, on le voit pas comme un frais, mais c'est l'équivalent, là. Donc, assurez-vous de bien structurer le portefeuille pour minimiser les impôts le plus possible.
Puis c'est ça qu'on essaye de faire dans la mesure du possible avec nos clients. Il y a des fois que les clients vont envoyer de l'argent puis dire « ce 20 000-là, je veux que ça soit dans quelque chose de garanti, puis il n'y a pas de place dans le REER, il n'y a pas de place dans le CELI ». Ça arrive, mais dans la mesure du possible, on essaye d'être aussi fiscalement bien investi qu'on peut l'être.
Exact. Donc, la diversification au niveau du portefeuille, là, on a vu là, des gens arriver avec des relevés de placement de l'externe, puis tu dis « OK, tu avais mis 40 % de ton argent dans un titre, puis malheureusement, ce titre-là, c'est pas avéré avoir du succès, a baissé ou même des fois a tombé à zéro. » Ben ça peut avoir un impact assez catastrophique. Donc, s'assurer que le portefeuille est bien diversifié dans les différentes classes d'actifs, dans les différentes géographies, puis qu'il n'y a pas de positions individuelles qui sont trop grosses. Et au niveau de la retraite, ben qu'est-ce qui peut arriver? Je fais mon choix de fonds de pension, j'ai une conjointe, j'ai pas... Tu sais, j'y vais un peu au hasard, puis là, ben je prends le premier choix, là, le choix B que mon employeur me pose, puis là, au décès prématuré, j'avais choisi la rente uniquement réversible à 50 % à la conjointe, puis finalement, j'aurais dû faire un autre choix. Donc, tu sais, parlez-nous quand c'est le temps de faire ces choix-là. On peut pas savoir votre date de décès, donc on ne sait pas vraiment c'est quoi le meilleur choix, mais on va venir un peu mettre des probabilités puis essayer au moins de faire le meilleur choix possible en fonction des probabilités puis peut-être éviter une catastrophe.
Puis la réalité, c'est que toi et moi, on n'a jamais pris notre retraite. Je commence à régler une succession, mais en réalité, on a fait plusieurs de ces choses-là, plusieurs de ces étapes-là de la planification avec nos clients à plusieurs reprises. Donc toi, ça fait 25 ans que tu es avec Valeurs Mobilières Desjardins. Tu l'as vécu plusieurs fois. Donc, tous les cas qu'on a vus, on peut les mettre au profit de chacun de nos clients.
Exact.
Donc, merci beaucoup, Martin, pour tous nos clients et partenaires. Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou vos objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous et merci pour votre écoute cette semaine. À la semaine prochaine.